Histoire et gastronomie. La chronique de Jean Vito sur Canal Académie.
Le sel, un aliment indispensable, de la sacralité à l'impôt et à la diabolisation. Le sel est un aliment indispensable à la vie. Connu sous le nom chimique de chlorure de sodium, il maintient l'eau à l'intérieur des cellules de notre organisme. Les besoins en sel ont varié au cours du temps. Quand le régime alimentaire des hommes préhistoriques était essentiellement carné, les besoins en sel étaient largement assurés. Mais quant au néolithique, l'homme est devenu éleveur et agriculteur, les besoins en sel sont devenus plus importants tant pour l'alimentation humaine que pour celle des troupeaux. La recherche du sel est alors devenue primordiale. Il existe deux sources principales de sel dans la nature. Le sel de mer et le sel gem ou sel de terre, qui est un sel fossile, témoin de l'évaporation des mers anciennes à l'origine de lagunes salines. Il existe dans de nombreux pays, comme en France, dans le Jura, en Allemagne, dans la région de Halle, et en Autriche, dans la région de Salzbourg, des sources salines qui ont été repérées depuis très longtemps. Le site éponyme de la civilisation celte, en Haute-Autriche, Hallstatt, est une mine de sel exploitée depuis le premier âge du fer, vers 700 ans avant notre ère. Il existe de nombreuses autres sources de sel de terre dans le monde, comme les lacs salés asséchés du Sahara, ou les déserts salés d'Atacamara au Chili, ou les salines précolombiennes de Maras au Pérou près de Cusco, exploitées depuis près de 4000 ans. Les modes de récolte du sel varient selon les climats. Pour le sel de terre, l'évaporation naturelle du sel par le soleil est la règle dans les pays tropicaux et même en Castille. Dans les pays d'Europe du Nord, on injectait de l'eau pour dissoudre le sel gem et on le chauffait dans des poêles géantes que l'on alimentait avec du bois, puis plus tard avec du charbon, ce qui a concouru à la fois à des déboisements importants puis à des plantations de bois de chauffe. Le sel de mer était soit évaporé au soleil, comme encore de nos jours dans les marais salants de Guérande, où l'on recueille le sel de la plus belle qualité ou fleur de sel, ou à Aigues-Mortes dans les salines du Midi, soit dans les pays humides et froids comme l'Essex, la Zélande ou la Normandie, où il était chauffé comme le sel gem. Dans les pays chauds et humides, comme le golfe de Guinée, en Afrique, on brûlait des herbes pour en extraire le sel. Le sel a eu dans de nombreuses religions une valeur sacramentelle. Dans la Bible, dans la Genèse, lors de la destruction de Sodome et Gomorre, la femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Dans l'évangile de Marc, le Christ dit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on » Chez les Grecs, le sel était considéré comme un don de Poséidon, et les Romains épandirent du sel sur les ruines de Carthage pour que la menace carthaginoise soit éliminée à jamais avant de reconstruire une ville romaine à son emplacement. Dans la géographie chrétienne, Judas est souvent identifié sur les tableaux de la Seine par une salière renversée. Et d'ailleurs, le sel est resté longtemps un moyen de conjurer le mauvais sort. Le problème de la répartition du sel se posa très rapidement, tant en Orient qu'en Occident. À Rome, le sel faisait partie, avec l'huile et le blé, des distributions gratuites à la plèbe. C'était le condiment plébéien, par opposition au garum et au poivre aristocratique. Pour maintenir un prix bas, éviter la spéculation sur ce produit indispensable à la vie et apporter des ressources fiscales, le sel fut taxé dès 204 avant notre ère. Mais à Rome, la taxation resta modérée et n'entraîna jamais de révolte fiscale, ce qui témoigne de la sagesse des anciens Romains. Le salaire des légionnaires était en partie donné en sel, ce qui est à l'origine du mot salaire, salarium en latin, toujours utilisé de nos jours. En Chine, le même problème se posa, et la taxation du sel tant gem que marin fut instituée dès le deuxième millénaire avant notre ère et confirmé régulièrement ensuite. Il existait un contrôle étatique de la production, une organisation de greniers d'État et un minimum de consommation obligatoire pour chacun. Cet afflux de ressources fiscales permit l'expansion de la Chine. L'invention du papier monnaie par les Chinois est directement liée au sel. Le papier monnaie était garanti initialement par de la monnaie métallique, du sel et du thé, puis à partir de 1048, la valeur indiquée sur les billets correspondait à un poids de sel. Le système fonctionna car l'imposition était proportionnelle aux capacités financières. Tel ne fut pas le cas en Europe. Il existait de toute éternité de nombreuses taxes touchant le sel, taxes à la production, droits de transport, dîmes et droits seigneuriaux, touchés par les féodaux et les ecclésiastiques. Mais il existait de nombreuses fraudes, liées notamment à l'hydratation du sel. Il fallait distribuer le sel à toute la population et aussi assurer de nouvelles ressources fiscales. Instauré en Italie, à Florence, où il s'appelait taxa boccara ou impôt des bouches, ou à Venise, où l'on estimait qu'il n'y avait pas de profit supérieur à celui engendré par l'impôt du sel, puis en Castille, il fut institué en Provence par Charles d'Anjou en 1255 par l'écrit de la Gabelle et généralisé dans toute la France ensuite. La Gabelle est devenue l'impôt le plus impopulaire de l'Ancien Régime. Le sel ne pouvait être acheté qu'à des greniers d'État à un taux prohibitif et il existait des disparités profondes entre les provinces. Pays de grande et de petite gabelle, pays de salines, province exemptée. L'impôt était récolté par la ferme générale réformée par Sully puis par Colbert. L'impôt était tellement impopulaire qu'il existait de la contrebande tenue par des faux-sonniers et une police chargée de la répression dont les agents étaient surnommés les gabelous, terme qui désigne encore familièrement les douaniers de nos jours. La gabelle fut abolie par la Révolution française sur les conseils de Necker, qui la jugeait irréformable. La saga du sel n'était pas finie pour autant. L'époque moderne a été marquée par la diabolisation du sel. Des médecins au XIXe siècle ont identifié l'effet délétère du sel sur les sujets atteints d'insuffisance cardiaque, puis des études épidémiologiques menées notamment chez les aborigènes d'Australie ont montré que la consommation de sel était directement proportionnelle au risque d'hypertension artérielle. D'où les conseils modernes de limiter la consommation de sel. Mais parallèlement, le sel a pu servir à des actions de santé publique. On a pu l'additionner d'iode pour prévenir l'insuffisance thyroïdienne par carence iodée et de fluor pour prévenir les caries dentaires. Le sel n'est donc pas un aliment anodin. Aliment indispensable à la vie, qui a suscité un commerce universel, marin et terrestre, sacramentel dans de nombreuses religions, mode de conservation universel comme en témoigne toujours le succès actuel de la morue et des anchois, enfin facteur de risque cardiovasculaire de nos jours s'il est consommé en excès.